Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session du CX Summit 2025. Plus d'IA pour plus d'humains. Et justement, on va beaucoup parler d'IA dans cette session. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir trois experts, donc Yacil, Daniel et Laurent. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et parler également de Consorente?
Bien sûr. Bonjour, donc, je suis Daniel Domingos. Donc moi, je pilote une équipe pluridisciplinaire avec des chefs de projet, des développeurs, des report managers. Ouais. Donc, je travaille pour Consor, qui est une ESN qui est spécialisée dans l'infogérance, la gestion d'infrastructures, le conseil et les services managés. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients sur leur transformation en aidant nos clients à trouver le bon équilibre entre la technologie, les process et les dynamiques des équipes. En gros, ça veut dire qu'on va les aider à réussir leur transformation digitale en améliorant leurs outils, en changeant peut-être leur process, en les fluidifiant notamment, leur permettre éventuellement de mener des projets de plus grande envergure au niveau de la transformation. On intervient sur toute la chaîne du support, que ce soit les centres de contact, la relation client, le data engineering, avec une approche toujours pragmatique, toujours centré sur l'usage et la valeur client.
Ouais, et vous êtes en France?
On est en France, effectivement. Alors, moi, je travaille pour Consor France, mais c'est Consor Group. On a des entités un peu partout en Europe. On a des centres de services, notamment en Irshore au Portugal et en offshore au Maroc.
Et donc, vous n'êtes pas très loin d'ici, parce que, en fait, là, on est à côté de l'Arc de Triomphe et vous êtes venu.
On est juste en bas à Porte-Maillot.
Et vous êtes client éloquent depuis plusieurs années déjà sur la partie centre de contact. Et là, on va faire un focus, en fait, sur les bots. Alors, Yacil, est-ce que tu peux te présenter, toi?
Oui, donc Yacil Benhamer, chez Consor également. Je travaille dans les équipes de Daniel. Mon rôle, spécifiquement, c'est chef de projet. Je m'occupe des intégrations, des activités pour nos clients en mode centre de service infogéré. Ouais. Voilà, donc globalement, l'idée, c'est que dans le cadre de l'accompagnement qu'on a pour nos clients, justement, on va pouvoir mettre en place des dispositifs type centre de service, mais également l'outillage et faire un petit peu le lien entre tout ce qui va être l'expertise des humains et les idées d'innovation et la partie un peu plus, justement, outils qui va permettre d'aller plus loin dans le delivery de ces services-là.
Ouais, c'est vrai qu'un des points forts qu'il y a chez Consorente, c'est cette partie expertise métier, en particulier dans l'informatique, où vous travaillez avec de grandes banques, des assureurs, etc., etc. Parce que vous, vraiment, c'est cette expertise métier-là qui est très donc, technique, mais on verra que le bot et l'IA viennent en fait compléter cela. Et ce n'est pas incompatible de dire « ouais, on a des techniciens qui sont super précis, qui savent vraiment répondre aux demandes, mais aussi pour certaines demandes, on va pouvoir faire du RPA, on va faire de l'automatisation, mais ça, on le verra juste après. » Alors, donc Laurent, toi, est-ce que tu peux te présenter? Nous, on se connaît bien, mais peut-être que nos auditeurs ne te connaissent pas.
Eh bien, ça va être l'occasion. Donc, Laurent Rubin, moi, je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Eloquent. Donc, je suis chez Eloquent depuis à peu près 7 ans. Et plus d'une vingtaine d'années dans la relation client globale. Et une spécificité sur l'avant-vente, c'est qu'on voit passer beaucoup d'expressions de besoins, des consultations, etc. Donc avec, on va dire, des bonnes notions de l'évolution du marché en général et au global, y compris sur ces nouvelles technos autour de l'IA.
Ouais, et puis après, tu accompagnes aussi les clients dans la phase de démarrage du projet pour aider en fait les équipes techniques, c'est-à-dire voilà ce qu'on s'est dit en avant-vente, voilà ce qu'il faut mettre en place chez le client. Donc c'est cet aspect vraiment passage de témoin.
Et ça va dans les deux sens d'ailleurs, puisqu'il y a également des nouveaux besoins qui se créent et qui reviennent côté avant-vente pour qualifier et avoir un peu plus de choses précises pour déployer.
Ouais, c'est pour ça que tu vas nous faire vraiment ce retour terrain de l'usage de l'IA. Alors si justement on revient sur l'IA, l'IA, ça veut dire beaucoup de choses. Comment on peut faire le bon choix entre les différents outils? Parce qu'on va parler d'IA, on va parler en tant que bot, on va parler d'IA avec de l'agent assist, on va parler d'IA avec de l'analyse. Comment on fait les bons choix?
Tout à fait. Alors en fait, c'est une bonne question parce que le point de départ, c'est savoir ce qu'on veut améliorer. Il n'y a pas de solution magique. On pourrait effectivement se dire on va mettre de l'IA partout parce que c'est le sujet du moment. Mais il faut d'abord s'asseoir, cadrer les choses, regarder avec nos clients en fait quels sont les points de friction, qu'est-ce qu'on veut améliorer, quelles sont les tâches répétitives éventuellement, est-ce qu'on a des pertes de temps ou comment améliorer les choses en fait. Donc on se demande si l'IA est le bon levier et à partir de là, on va regarder quelle solution on peut proposer. Il y a des exemples en fait, que je peux vous donner qui sont simples à mettre en place et qui ne relèvent pas de l'IA. Hein. Chez Consor, on va mettre en place des quasi connectés pour faire de la dotation ou de la restitution de matériel connecté avec un ITSM. C'est une solution qui convient parfaitement pour ce type de solution, de problématique, sans mettre de l'IA.
Ouais. Bah oui, parce que s'il n'y a pas un service informatique qui est là, si on distribue du PC, du matériel, des caméras ou d'autres instruments, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir un casier, le technicien, il arrive, il prend le matériel, il le remet, un petit peu comme les pick-up services qu'on retrouve sur
Tout
Amazon.
Et les gens sont habitués maintenant à cet usage-là, puisqu'ils le font quotidiennement pour eux, et donc ça fonctionne bien et ça porte ses fruits.
Et toi, Yacine, quelle est ta philosophie là-dessus ?
Alors déjà, moi, je suis en phase avec ce que dit Daniel. Hein. L'idée, c'est surtout pas d'être dans une démarche où on va déployer à tout va de l'IA parce que c'est de l'IA. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de canaux d'interaction avec les utilisateurs dans nos centres de services. Donc, on a le téléphone, bien entendu, on va avoir du chatbot, on va avoir du self-care, on va avoir de la base de connaissances, du portail autodéclaratif. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui va améliorer, qu'est-ce qu'on va améliorer, comment on va l'améliorer pour pouvoir intégrer la bonne solution. Et parfois, effectivement, c'est une solution à base d'IA. Vraiment, c'est de... on est toujours quelque part, comme tu le disais, on est dans des sujets d'expertise métier, hein, c'est du support technique qu'on fait, donc il y a des choses assez spécifiques. Et au final, une part de notre métier, c'est de mettre en relation l'utilisateur avec la connaissance qu'on a. Soit au travers d'un technicien au téléphone dans un centre de service, soit au travers de la mise à disposition de cette connaissance dans du self-care, soit par le biais justement d'une IA qui va interagir avec lui et lui donner la bonne information. Donc voilà, c'est vraiment une question de gradation, de selon le canal de communication et le besoin d'utilisateur, lui apporter la bonne réponse, et parfois c'est assisté par l'IA.
Alors justement, quand on parle de réponses, un des types de réponses qu'on entend le plus parler actuellement, en particulier dans les centres de services et centres de contact, c'est la partie callbot, puisque en fait, on le voyait juste avant dans l'intervention avec l'MNT, ils ont réduit de 4% le volume d'appels lors des pics d'appels des cartes de tiers payants. Donc c'était quelque chose qui apportait plus de services, puisqu'en fait, c'est des demandes simples qui n'apportent pas de complexité particulière. Voilà, les callbots servent aussi à ça. Dans votre métier, comment ça marche? Et justement, là, on a mis une petite vidéo qui présentait le concept. On parle beaucoup de callbots. Comment ça marche vraiment, en fait, les callbots, et quelles sont les différences avec les callbots d'avant, etc. Alors, Yacine, je te laisse nous en dire un peu plus.
Ouais, alors justement, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a vraiment une évolution technique. Chez Consort, maintenant, on utilise des callbots à base d'IA.
Ouais.
Donc, le principe, c'est que on a un système qui, au travers de la plateforme Eloquent notamment, va capter le discours de l'appelant de l'utilisateur et le traduire en fait en texte, compréhensible par l'IA. L'IA générative va produire une réponse sur la base des informations qu'elle connaît en fait du contexte qu'on lui a donné, et ce texte va être de nouveau traduit en voix pour répondre à l'utilisateur. Tout ça, ça se fait en quelques millisecondes. C'est comme une conversation naturelle,
ouais, c'est transparent,
comme avec une personne, donc c'est assez naturel et intuitif. C'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on faisait avant avec les callbots classiques, où en fait c'est un SVI vocal, tout simplement, qui peut être un petit peu rigide. Là, on est vraiment dans une interaction qui est plus fluide, plus naturelle, et qui va réintroduire cette notion un petit peu de relation avec l'utilisateur. Pour autant, les IA ne savent pas tout faire, donc elles vont être parfaitement adaptées pour répondre à un certain nombre de sujets simples, de demandes d'informations et de typologie de sollicitations sur lesquelles on a pu lui mettre à disposition de la connaissance pour dépanner un utilisateur. Dès qu'on rentre dans un niveau de complexité, l'IA passe la main à un technicien humain, voilà, qui va pouvoir prendre le relais et rentrer sur des sujets d'expertise où il va justement apporter de la valeur.
Mais comment ça se met en place, et est-ce qu'avec l'IA générative, c'est plus simple en fait que lorsqu'on faisait auparavant ?
Bien entendu, dans la mesure où on est sur une IA générative, on lui met à disposition un patrimoine de connaissances, et il est capable de lui-même de répondre avec le bon discours, de mieux comprendre le contexte de l'utilisateur pour apporter une réponse adaptée dans le discours.
Ouais, et puis, tu m'as dit en préparation, ce qui change vraiment la donne, c'est la connexion au système d'information.
Absolument.
C'est-à-dire que ce n'est pas juste répondre en mode FAQ, mais c'est vraiment passer à l'action, quoi.
Exactement.
Alors, j'apporterai un complément d'information. En fait, effectivement, ce qui a évolué, ça va être la partie base de connaissances. Anciennement, nous étions avec les Callbots avec des versions très rigides, avec un workflow qu'on devait mettre en place.
Avec toutes les intentions qu'on devait détecter, qu'on devait écrire, les arbres de décision, tout
voilà,
ça.
Voilà, donc ces arbres étaient complexes à mettre en place pour des... non-power user, donc on avait soit un développeur qui le mettait en place, on était dans très rigide, il fallait suivre toujours le même scénario, donc avec des réponses qui étaient toujours les mêmes, quoi qu'il arrive, donc un utilisateur ressentait parler avec une machine, notamment ne serait-ce que la partie synthèse vocale a été encore robotisée, alors qu'aujourd'hui, ben, en fait, la plupart des utilisateurs, lorsqu'ils appellent et qu'ils tombent sur un callbot moderne, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils vont vraiment discuter avec lui en disant bonjour. Et le gros avantage, c'est qu'il va comprendre les intentions d'une façon plus exhaustive. On va être en capacité de poser plusieurs questions à la fois. Donc, on est capable de poser une question relative, par exemple, à un problème de mot de passe et à une connexion Internet. Le callbot va comprendre, va séparer les sujets, va répondre aux deux. On a aussi la possibilité de l'interrompre, donc comme pendant une vraie conversation avec un utilisateur. Et donc, on rend plus humain, en fait, la conversation avec, moi, ce que j'appellerais un humanoïde, hein, parce qu'on n'est plus vraiment avec un robot. Et ça, ça change tout.
Ouais, et puis c'est surtout, comme tu le disais, c'est passer à l'action. C'est-à-dire créer un ticket derrière, débloquer une imprimante, lancer l'intervention d'un technicien. C'est ça qui va faire la différence. Le bot d'avant en IA classique le faisait, mais en IA générative, on a plus de possibilités parce qu'on peut faire plus de développement et d'intégration.
Tout à fait. Et il y a des nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place qui nous permettent justement d'aller automatiser ce genre de choses avec, non pas de l'API, mais du MCP. On est en capacité de déclencher des actions. Donc ça, ça commence à émerger. On va le voir de plus en plus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la compréhension, elle se fait au niveau du langage et plus au niveau des mots, comme on pouvait avoir avec du NLP. On appelait ça de l'IA à l'époque, mais c'était peut-être un abus de langage si on compare aujourd'hui avec ce qu'on sait faire avec de l'IA générative.
Ouais, c'est la reconnaissance de mots-clés d'expression.
Tout à fait.
Et toi, Laurent, ton expérience chez les clients, tu disais que tu les rencontres régulièrement, tu les accompagnes dans les projets. Quels sont un petit peu ton retour d'expérience sur le sujet ?
Le retour d'expérience, et notamment celui qui est marqué par les clients qui testent pour la première fois cette IA générative, c'est que l'impression est vraiment bluffante. On a vraiment l'impression de parler à un humain. Je pense qu'on s'est d'ailleurs tous fait avoir à titre personnel par des vendeurs de stores qui appellent et on a l'impression que c'est une personne humaine qui parle derrière. Donc l'impression, elle est vraiment assez phénoménale par rapport à ça. Après, il y a également des dérives sur l'IA, c'est-à-dire que si on ne le cadre pas, il peut partir un peu dans tous les sens. En fait, le but de l'IA générative, c'est qu'elle va trouver une réponse, la réponse qui lui paraît la plus opportune. Elle va éventuellement relancer si jamais on est sur un blanc ou en fin de piste de la conversation. Elle va de toute façon suivre toujours un fil de conversation qui lui est propre. Donc pour ça, il va falloir quand même la cadrer. Là, on est dans un environnement professionnel. On ne peut pas lui laisser la main sur tout et n'importe quoi. On a notamment fait un test une fois avec un client. On avait mis une caractéristique un peu en pâte sur le callbot. Et le client s'est un peu dérivé sur des histoires personnelles. Et ça a terminé sur, je vous comprends tout à fait, appeler un psychologue, etc. Donc ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir cadrer ça. Le callbot, il ne faut pas lui laisser faire tout et n'importe quoi. Et pour ça, on peut mettre à disposition ce qu'on appelle un RAG, qui est une base de connaissances, qui permet de recadrer par rapport à des thématiques ou des intentions que l'IA générative détecterait, de fournir des réponses qui sont plus professionnelles, les plus homogènes par rapport à ce que l'entreprise souhaite faire.
Ouais. Et donc là, je ne dirais pas que c'est un art du prompt, mais il faut bien cadrer en fait cette demande. Et ce qui est aussi une grosse différence entre l'IA classique et l'IA générative, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, il n'y a plus besoin de coder, en fait. On a le prompt. Et là, tu nous as donné un petit exemple de prompt que tu utilises pour tes démos. On voit bien que c'est du texte, quoi.
Exactement. En fait, le principe du prompting, donc c'est assez révolutionnaire là-dessus. Auparavant, ce qu'on devait faire, c'était configurer à la main chaque intention ou dans les anciens SVI, chaque touche sur un bouton. Là, en fait, on va simplement lui tenir par la main et comme on le ferait avec un agent, un nouvel arrivant, on va le coacher sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il ne doit jamais faire, sur la façon dont il doit répondre, sur la tonalité qu'il doit employer. Donc tout ça fait partie du prompt. Donc véritablement, on va le coacher par rapport à ce qu'on va pouvoir écrire et lui donner, par exemple, sur des thématiques particulières, le bon phrasé de retour.
Ouais. Alors là, tu nous parles en fait d'un callbot qui va en fait traiter des demandes, mais il y a deux natures de callbot.
Oui, il y a alors ce qu'on appelle le callbot de traitement, donc celui-là il va exercer plutôt en self-care, c'est-à-dire qu'il va être potentiellement connecté à un système d'information pour, on l'a vu avec la MNT, envoyer des cartes de tiers payants, envoyer des duplicatas de factures ou donner des infos simples, mais actualisées par rapport au contexte, à un contexte client. Donc c'est le cas particulièrement de la MNT qui fait ça au niveau des cartes de tiers payants. Et puis on a le bot de qualification qui lui va être un peu le simili de ce qu'on avait avant sur le SVI, sauf qu'il va être en langage naturel. Il va être là pour détecter les motifs de contact pour l'envoyer vers les bonnes ressources qui sont les plus aptes à pouvoir répondre à la demande.
Ouais. Mais ça en fait, on va se dire, mais est-ce que parfois c'est pas prendre un bazooka pour tuer un moustique, c'est pas forcément hyper écologique et ça coûte cher en fait par rapport à d'autres systèmes. Est-ce qu'on peut pas trouver des solutions plus simples, plus low-tech que de mettre un callbot pour certaines demandes?
Pour certaines demandes, ça s'avère effectivement presque indispensable. Sur, par exemple, je pense que Consort est au courant sur la partie renouvellement de mot de passe. On peut faire des demandes de renouvellement de mot de passe par téléphone. Néanmoins, donner un mot de passe par la voix, c'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, on va privilégier un peu un traitement omnicanal qui va être piloté toujours par l'IA, mais qui va, par exemple, envoyer un SVI, envoyer un SMS avec un SVI visuel et le contact pourra lui-même saisir son nouveau mot de passe et on rembraye sur un traitement web, mais en parallèle du traitement par IA callbot.
Ah, c'est ce qu'on voit à l'écran. La personne est au téléphone, elle a une demande qui est un peu particulière où on doit faire un numéro de colis, on doit renouveler un mot de passe, elle reçoit un SMS et là, en fait, elle a une interface qui est dédiée où elle peut saisir avec son clavier. Là, c'est quand même plus agréable que dire tout au téléphone.
C'est beaucoup plus ergonomique. Alors, il y a des sujets qui se prêtent plutôt au callbot et d'autres sur lesquels, effectivement, il faut envisager d'autres solutions ou d'autres canaux pour pouvoir communiquer.
Mais alors, est-ce que le bot et ce genre de solution remplacent les agents?
Alors, ça ne remplace pas les agents. En fait, le but du bot, c'est d'aller traiter de façon simple les appels qui sont plutôt à faible valeur ajoutée, les appels répétitifs qui n'ont pas de valeur ajoutée à être traités par des agents.
Ouais, c'est vrai, c'est ce que disait tout à l'heure la MNT. Il disait, voilà, on n'arrive pas à avoir une bonne qualité de service parce qu'il y a beaucoup d'appels. Mmh. Autant, en fait, que le bot en prenne une partie et les traite simplement. Le client, tout ce qu'il veut, en fait, c'est sa réponse, soit par un agent ou par un bot. Si j'ai ma réponse immédiatement tout de suite et qu'elle est correcte, je suis satisfait.
Et en 24/7, puisque c'est aussi un intérêt du bot, c'est qu'il ne s'arrête jamais.
Alors, si on parle de résultats, justement, Daniel, quels sont les résultats en fait, que vous voyez en fait, au niveau du terrain?
Alors, on constate un gain de temps. Nous, on va chercher surtout l'optimisation. Ouais. Comme tu le soulignais, on a des clients qui vont appeler parfois dans des périodes très chargées. Ouais. Et donc, il y aura du temps d'attente. Et plutôt que leur passer de la musique et une belle musique de jazz, on préfère en fait les mettre en communication déjà pour préqualifier la demande ou essayer de trouver une solution à leur problématique. Donc si on ne trouve pas la solution à la problématique, on a toujours la possibilité d'envoyer l'appel vers un agent humain, avec le gros avantage, c'est qu'on aura pris le temps de capturer le besoin et on va présenter en fait à notre technicien ce pourquoi l'utilisateur appelle. Donc on va éviter à l'utilisateur de se répéter, ça aura été formaté d'une façon claire pour le technicien, on aura un gain de temps et un gain de qualité sur la réponse qu'on va lui apporter. Donc on améliore l'expérience utilisateur, il attend moins longtemps, ou en tout cas on optimise son temps d'attente, il n'est plus là juste pour écouter de la musique, et la relation démarre mieux dès qu'il commence à dialoguer avec notre technicien.
Alors, je te poserai la même question qu'à Laurent. L'IA, alors, ça ne remplace pas aussi le technicien, ça vient en complément?
On ne remplace pas le technicien avec de l'IA aujourd'hui, c'est vraiment un complément, c'est vraiment un assistant, un copilote, tu peux l'appeler un peu comme tu veux, qui va accompagner le technicien, qui va lui plus se concentrer sur les tâches de son cœur de métier, donc l'assistance technique, vraiment, là où... Il apporte le plus de valeur, mais il va être aidé. Donc, comme le disait Daniel, si on a un premier rideau avec un utilisateur qui a parlé à une IA, qui a pu qualifier, résumer le besoin, le transmettre au technicien, ça va lui faire gagner un petit peu de temps. Il aura tout de suite des informations formatées et claires et pourra tout de suite attaquer la résolution de l'incident avec l'utilisateur. Et pour aller plus loin, on parlait tout à l'heure de connecter l'IA à un ITSM ou un CRM selon les contextes, où on va pouvoir avoir ce résumé de conversation avec l'utilisateur, mais aussi avec le technicien, qu'on va pouvoir mettre directement dans le ticket, faire de la création automatique de tickets. Du coup, c'est moins de temps de saisie manuelle pour le technicien qui conseille l'utilisateur et donc qui se concentre encore une fois sur ses actions. Et l'autre gain qu'on a, c'est que l'IA va pouvoir créer des tickets d'incidents exhaustifs, complets, qui répondent à un template, une trame qu'on aura imposée. Et ça, en termes de qualité de saisie, de traçabilité, que ce soit pour faire de l'analyse vision ITIL de l'incidentologie ou simplement pour être conforme avec ISO sur la qualité de traçabilité, c'est un gain et de temps et de qualité.
Ouais, et puis, il y a certains de vos clients aussi qui disent « moi, je veux conserver l'humain parce que je veux de la qualité de service, j'ai des techniciens qui doivent vraiment aider les collaborateurs, mais c'est également aussi pour la protection des données ou des choses comme ça, où là, le bot n'est pas forcément le plus adapté. »
Exactement, là, on est dans une approche… Alors, du coup, on a la relation humaine entre le technicien et la plan, et là, l'IA, elle est dans un rôle de plus justement d'assistant, elle va aider plus le technicien que la plan. Et effectivement, on a besoin, surtout dans nos métiers de l'informatique, de garder cette main, de maîtriser ce qui est fait. Et c'est le technicien qui va pouvoir valider le contenu de la traçabilité et de s'assurer qu'on ne laisse pas l'IA faire tout et n'importe quoi. Il y a des vrais enjeux dans les DSI de maîtrise de l'information. On parle de sujets tels que le RGPD, mais de manière plus générale, tous les RSSI aujourd'hui sont très sensibles à ces aspects-là. Et donc, on a besoin de garder vraiment technicien.
Selon certaines typologies, voilà. Il faut avoir un technicien, les mots de passe.
Absolument.
Et tout ça, c'est pas... Alors, on a parlé de callbot là, parce que c'est vraiment le sujet dans les centres de contact, mais on parle aussi d'agent assist. Alors, Daniel, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'agent assist et comment ça fonctionne?
Tout à fait. Donc, l'agent assist, c'est justement pour aider le technicien. Comme quoi, on ne le remplace pas. Hein. On veut vraiment l'aider. Il faut qu'il soit là. Donc, on va mettre une fonctionnalité en place qui va permettre d'écouter l'appel durant toute la conversation. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on va s'appuyer sur notre base de connaissances pour lui pousser de l'information pertinente par rapport à la conversation. Mm-hmm. Donc, comme on détecte non pas des phrases, mais une intention globale, on est capable de faire évoluer ce qu'on va lui présenter si ça ne matche pas ou si la conversation dérive. Donc on va vraiment assister nos techniciens avec cette partie outillage. Le gros avantage, c'est que ça reste dans l'interface du technicien, ça ne change rien pour lui, il a toujours ses habitudes. Par contre, on va lui apporter du support toujours pour qu'il puisse se concentrer sur la problématique, la conversation et voir comment il peut résoudre le problème de notre client. En étant peut-être plus empathique parce qu'il va avoir le temps, plutôt que prendre des notes parce qu'il sait qu'il doit ensuite faire un résumé pour créer son ticket, il est libéré de ces tâches-là. Il est assisté s'il en a besoin, parce que les plus grands experts avec leurs années d'expérience vont répondre sans suivre la trame parce qu'ils la connaissent, tout simplement, elle est dans leur tête. Et une fois qu'on va passer à la fin de l'appel, là, on lui propose, et je dis bien propose, un résumé que le technicien peut pousser. Alors, dans certains cas, nos clients préfèrent que le résumé soit poussé directement et il n'y a pas de validation possible. Voilà, de validation.
Mais c'est vrai que nous, ce qu'on constate, c'est que dans 92-95% des cas, c'est bon. Et qu'après, il y a certains cas où on change un peu parce que l'IA n'a pas tout à fait compris. Mais c'est vrai que déjà, dans 90% des cas, si c'est bon, c'est déjà énorme. Alors là, on a parlé du téléphone. Si on parle maintenant de l'écrit, l'IA en mode agent assist, ça aide aussi.
Exactement. Alors l'agent assist, on peut l'appeler également agent augmenté. Moi, j'aime bien dire que l'IA sert en tant qu'exosquelette. C'est-à-dire qu'il va augmenter les forces de l'agent.
Un Iron Man.
Voilà, donc ça, c'est F-Alien ou Avatar, mais c'est exactement le principe. Donc ça ne remplace pas l'agent. Il faut savoir, sur les flux écrits, initialement, particulièrement sur le mail, les agents utilisaient tout ce qui était des bases de réponses type. Ouais. Alors pour les réponses les plus fréquentes, ils avaient même à leur disposition des codes de réponses type pour aller un peu plus vite.
Ouais, les macros.
Exactement. L'IA révolutionne un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est l'IA qui peut analyser tout ce qui va venir en termes de mail, de contexte de mail, pour proposer parmi les réponses types lesquelles sont les plus adaptées. Et derrière, c'est l'agent qui va faire son marché avec les réponses qui lui sont proposées par l'IA. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et puis le deuxième niveau de réponse que l'IA peut apporter, c'est tout ce qui va être basé sur l'IA générative, justement, qui va elle-même construire la réponse. Donc plus en se basant sur les réponses types, ou en tout cas en utilisant les catalogues de réponses types.
Ou mais, des bases documentaires tierces.
Ou des bases de documentaires, ouais, tout ce qu'on va lui injecter, en tout cas tout ce qu'on va lui donner à manger, pour qu'il puisse construire la bonne réponse avec une tonalité, avec toujours une empreinte d'entreprise qui va être homogène sur l'ensemble des réponses.
Donc, ouais, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran là, avec donc, l'email qui est arrivé, et puis là juste derrière, l'aide à la réponse, comme il n'y a pas cette fameuse réponse type qui existe, et bien, en fait on va chercher dans une base de données, et il n'y aura plus qu'à prendre cette question, cette réponse et la corriger.
C'est ça. Et en revanche, dans la configuration qu'on imagine, parce que je parlais d'âge augmenté, ça reste à l'agent de choisir si la première ou la deuxième réponse est la plus adaptée au contexte.
Ouais.
Donc c'est à lui de valider en fait de la réponse de l'IA. Donc ça, c'est un premier élément d'aide que peut être apporté à l'agent. Il y en a d'autres, hein. Il y a une multitude de fonctionnalités qu'on peut proposer l'IA.
Ouais.
Je pense notamment à tout ce qui va être traduction.
Ouais.
Dans des contextes internationaux, donc des traductions automatiques dans la langue du client ou du contact. Et puis, on va retrouver également tout ce qui va être résumé de conversation. Alors, par exemple, si on parle de la voix, on revient sur la voix. Aujourd'hui, il y a un temps de traitement post-appel qui peut être plus ou moins conséquent en fonction de la complexité qui a été abordée lors de la conversation. Et l'IA va permettre de générer quelque chose qui est le plus synthétique, de façon automatique, qui va aider également l'agent. Du coup, ça va réduire en fait le temps de traitement qui peut être quand même très long parfois, et notamment dans les périodes de pic d'appel, ça peut être quelque chose d'intéressant.
C'est vrai que Daniel, tu nous disais qu'il y avait vraiment deux niveaux d'intervention de l'IA. C'était soit pendant l'échange, soit c'était après l'échange.
Tout à fait. Donc, on a déjà discuté du niveau avant échange. On va en fait récupérer de la formation pour la présenter à notre technicien. Après échange, on a ce qui est montré à l'écran ici, le résumé de conversation. On est capable aussi c'est de joindre les deux, parce que la conversation et l'expérience utilisateur, c'est depuis le début de la conversation avec le callbot jusqu'à la fin de conversation avec le technicien, s'il a été jusque avec le technicien. Et ensuite, on pousse le tout dans les TSM. Si on a voulu le faire de façon automatisée, c'est tout à fait possible. On peut en fait prompter pour obtenir en fait un formatage, comme le soulignait Yacine tout à l'heure, spécifique, qui va permettre en fait à nos incident managers d'aller analyser ce qui se passe et éventuellement de détecter plus facilement des nouvelles procédures à écrire pour les mettre à disposition, soit du callbot, du voicebot ou du live chat, puisque dans les live chat, on est aussi avant le live chat, on est en capacité
Alors, avec un chatbot.
Tout à fait.
Ouais. Alors là, on se place beaucoup sur la productivité, l'efficacité, mais tout ce qui est qualité perçue et le suivi, est-ce que ça aussi, ça a un impact, l'IA ?
J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, sur l'aspect de qualité de la traçabilité. C'est vraiment un point essentiel. Quand j'étais moi-même responsable d'un centre de service, je ne compte pas le nombre de fois où un technicien m'a dit « je ne suis pas une secrétaire ». C'est pas ce qui me passionne. Déléguer cette tâche de rédactionnel à une IA générative qui le fait très bien au demeurant. C'est un vrai plus pour les agents, ils sont plus sereins. Et une des constatations qu'on a faites tout récemment avec Daniel, c'est que c'est un impact positif sur le turnover dans nos équipes.
Ah oui.
Et les techniciens sont mieux outillés, mieux accompagnés. Ils délèguent les tâches un peu récurrentes, rébarbatives, administratives à de l'IA et se concentrent vraiment sur leur cœur de métier. Là où leur savoir-faire compte, c'est plus épanouissant pour eux.
Mais vous faites aussi de l'incidentologie, ça c'est important.
Absolument, et comme le disait Daniel justement, le fait d'avoir potentiellement du remplissage homogène de tickets faits par l'IA, d'avoir les bonnes thématiques et les bons mots-clés utilisés, va être un accélérateur pour justement pour les équipes d'incident management, pour aller identifier des typologies de sollicitations qui auparavant auraient pu être impossibles à détecter parce que évoluant à bas bruit, caché, noyé dans le flot de tickets de sollicitations. Là, ça vraiment, ça permet d'homogénéiser, de pouvoir aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe dans le SI.
Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure là, à 14h avec Citigo, c'est comment en fait ils analysent tout ce volume de données, appels, résumés, tickets, etc., pour aller après monétiser et donner une valeur en fait à des types d'incidents. Par exemple, si j'ai 100 appels par jour ou par semaine sur une demande, bah, ça n'a pas le même impact financier, ça prend tant de temps, et après c'est facile de justifier, voilà, il faut faire une évaluation, il faut faire changer un process, etc. Donc cet aspect incidentologie, il est aidé avec l'IA sur cette qualification, parce que parfois c'est un petit point faible. Comment on arrive à bien qualifier quand c'est incident de mot de passe, mais incident de mot de passe avec quelle application, quel endroit, est-ce qu'on peut automatiser les choses? Donc vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, apporte beaucoup de valeur à l'entreprise. Alors, toi, en fait, Laurent, tu voulais aussi parler de la partie quality monitoring. Pour toi, c'est important aussi de le valoriser.
Tout à fait. Le principe, c'est de voir où on peut saupoudrer de l'IA. Et je pense qu'on peut le faire un peu partout, et notamment sur le quality monitoring, qui, en fait, qui permet de coacher, en fait, par rapport à des enregistrements ou des conversations, les agents. Et là où l'IA va intervenir, et notamment sur les, je pense à la partie vocale, hein, c'est que, alors, si on revient un petit peu en arrière, quand on faisait un travail de quality monitoring avant, on enregistrait une partie des conversations, donc pas toutes, et puis derrière, on donnait cette masse d'informations à un superviseur ou à un gestionnaire pour qu'il puisse choisir, donc ce qu'on appelle le picking, ouais, les enregistrements écoutés par rapport aux infos qu'il avait, c'est-à-dire peut-être le motif de contact, la durée d'appel.
Les appels courts, ouais. Et c'est vrai que Citigo nous disait qu'ils utilisent 4%, je crois qu'ils font 4% d'écoute, 2 ou 4%.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pertes.
Bah, c'est 96% qui passent à la trappe.
Donc, il y a peut-être également des messages ou des informations qui sont à retenir de ces 96% qui n'ont pas été analysés. Ouais. Et là, ce qui est intéressant sur l'IA, c'est qu'elle va faire ce travail d'analyse globale. Donc là, on peut lui envoyer 100% des appels enregistrés, pour qu'elle analyse et qu'elle sorte en fait la moelle de ce qui s'est dit dans la conversation, et de voir si c'est intéressant de privilégier telle ou telle écoute pour coacher, pour en faire une référence, qu'elle soit sur les bonnes pratiques ou les pratiques à éviter.
Et tu peux voir aussi les effets waouh. Si tu croises les enquêtes de SAT avec le QM, tu sais ce qui a marché ou au contraire ce qui a fait un effet waouh, vraiment pas bien, des waouh, on va dire.
C'est ça, parce que d'un point de vue enregistrement ou contact agent, on a une perception on a des perceptions qui sont subjectives, et le fait de rapporter ça à une note et l'impression du client, ça permet aussi de recadrer et de voir si peut-être quelque chose, une bonne pratique pour un agent, elle ne correspond pas forcément à une bonne pratique pour un client. Donc ça permet de combiner tout ça et de voir ce qui a fonctionné de l'un par rapport à l'autre.
Ouais,
et
puis se faire une bibliothèque d'appels, ouais, on va pouvoir enregistrer pour former les nouveaux collaborateurs, dire tiens, voilà ce qui marche et qui apporte un effet waouh. Au contraire, il ne faut pas dire allez consulter le PDF sur le site web, vous regarderez la vidéo.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bon, si on passe sur la partie analyse des verbatims, là on a vu à l'écran cette partie quality monitoring, hein, avec l'analyse, l'écoute, hein, comme tu l'as dit, et l'ES aussi, on peut voir aussi en vert la note que donne le conseiller, comme tu l'as dit, il peut donner la note qu'il pense pour l'appel, et le superviseur peut après regarder ce qui s'est passé et voir quelle a été cette conversation qui a été un petit peu difficile. Si on parle maintenant de l'analyse des verbatims, là aussi l'IA peut aider.
Oui, et bien de la même façon, c'est la capacité de traitement de l'IA qu'on utilise dans ces deux cas. C'est-à-dire que par rapport à l'analyse verbatim, hein, qui peut être soit sur du mail, des commentaires ou des enquêtes, l'IA va faire un traitement automatisé pour permettre d'aller un peu plus loin que ce qu'on faisait déjà. Hein, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait des thématiques qui ressortaient, mais on avait quelque chose qui était un traitement un peu à plat.
On voit un petit peu des exemples.
C'est ça, mais qui ne donnait pas grand-chose. Et l'IA va permettre de retraiter ces infos pour aller fournir finalement véritablement l'angle de vue qu'on cherche à avoir. C'est-à-dire qu'on peut, comme sur Amazon par exemple, c'est vrai, quand on va chercher un produit, on a un résumé des commentaires, on ne lit pas tous les 500 commentaires qui sont derrière. Donc ça permet d'avoir une vision un peu plus synthétique de ce qu'on cherche, et on peut également requêter, on peut utiliser des filtres pour aller véritablement sur le résumé des informations qu'on cherche par rapport à une période.
Ouais, c'est vrai que moi je trouve que le requêtage en langage naturel apporte un vrai plus, parce qu'on va pouvoir demander, mais dis-moi les verbatims des clients qui ont eu un problème de livraison, ou au contraire les clients qui ont été intéressés là-dessus. Là on va pouvoir vraiment se concentrer sans forcément chercher 50 000 filtres ou 50 000 commentaires.
Et ça donne une synthèse en fait de ce qu'on va retrouver, et quelles vont être finalement tout ce qui va être les priorités, l'essentiel. Donc tous ces éléments clés qu'on doit récupérer pour faire de l'analyse stratégique et du rebond et de l'amélioration continue.
Alors maintenant, si on va prendre un petit peu de hauteur, on voit que l'IA va vraiment aider la relation client. Selon vous, quelles sont en fait les évolutions à retenir ?
Alors moi, je crois beaucoup en la traduction multilingue. On a déjà beaucoup de callbots qui sont capables de dialoguer dans plusieurs langues, mais désormais, on est en capacité d'insérer en fait notre IA pendant la conversation entre notre utilisateur et notre technicien. Donc ça nous aide dans les centres de services où il faut parler plusieurs langues parce que ça va être compliqué d'avoir sur le même plateau à certains horaires toute une panoplie de
langues, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. Voilà,
ou des langues qui sont moins utilisées dans nos régions.
Ukrainien, par exemple.
Tout à fait. Donc ça nous permet en fait déjà de faire du support 24/7 sans équipe locale et sur chaque langue. Même les langues, prenons l'exemple d'un client qui aurait une petite équipe locale, il n'a pas forcément les moyens d'aller mettre un centre de service dédié à cette équipe-là. Et ben désormais, avec les outils qu'on est capable d'interconnecter, on va faire la traduction dans ces deux langues, soit avec en laissant la possibilité à l'utilisateur de déclencher la langue si il en a besoin, parce que il y a beaucoup de personnes qui parlent plusieurs langues, hein, heureusement, soit le faire dans le sens inverse, et le technicien, si il en estime le besoin, qui va le déclencher.
Ouais, et c'est vrai que ça me rappelle un de nos clients qui s'appelle Ivalua, qui a fait un follow the sun, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un service client donc, en France, à La Réunion, et je crois que c'est à la Martinique, pour faire en sorte qu'ils soient quasiment de 24/7. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir les compétences de gens qui parlent différentes langues, puisque là, avec ce service de traduction en temps réel simultané, c'est pas mal. D'ailleurs, tu nous as fait une petite démonstration dans pas longtemps, Laurent. Dis-nous un peu comment ça marche.
Excuse-moi.
Le multilingue.
Multilingue, en fait, au niveau technique, on vient en coupure de l'appel entre l'appelant et l'appelé pour renvoyer le flux vers cet outil de traduction. Donc on voit en surimpression, en fait, la traduction qui est donnée à la fois au contact et à l'agent pour qu'il puisse communiquer. Donc chacun parle dans sa langue, mais il y a en surimpression, en fait, la voix dans la langue traduite qui permet à chacun de se faire comprendre.
Donc on entend en tout bas la version originale, et en tout haut, il y a l'IA qui te traduit en différentes langues. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était assez impressionnant, et surtout, c'était rapide, quoi.
C'est ça, en fait, c'est ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de blanc. Et là, en l'occurrence, la traduction se fait au fil de l'eau. Il n'y a pas la partie qui est dite par l'un, puis après, on attend une minute avant que ça soit traduit. Là, on est vraiment en surimpression, avec très peu de lag entre les deux.
Ouais. Alors, un autre point que tu vois dans la vision, c'est cet aspect personnalisation.
Oui, ça, c'est mon idée du futur sur l'IA et en quoi ça va aider. C'est un peu comme quand tu vas dans ta boulangerie, je pense, et tu as les bons vœux de la boulangère qui te demande comment ça va. Donc c'est l'histoire, c'est de donner les informations, et notamment si je me mets à la position du callbot, pour l'informer de toute l'actualité du contact. Mmh. Donc plutôt que de dire bonjour Monsieur Dupont de façon neutre et à minima, c'est bonjour Monsieur Dupont, vous aviez un contrat auto, est-ce que vous nous avez appelé la semaine dernière, est-ce que c'est pour ça et comment va votre chien? Donc toutes ces informations-là qu'on va pouvoir traduire pour personnaliser véritablement la relation et éventuellement aussi éviter à la personne de redemander ou de ressaisir ou de donner de nouvelles informations qu'on a déjà.
Ouais, c'est vrai. Et pour toi, Daniel, quelle est ta philosophie sur les évolutions à venir ?
En fait, l'IA, pour moi, ça devient un partenaire de travail hein, pour, mm-hmm. pour un technicien, comme on l'a souligné. Elle va assister, elle va conseiller, elle va permettre de faire... de gagner du temps à nos techniciens, mais aussi optimiser le temps d'attente de nos utilisateurs. Et ce temps gagné, en fait, on va le réinvestir, soit dans l'écoute, la relation, et puis la confiance qu'on a à dialoguer avec les personnes qu'on assiste.
Ouais. Alors, on n'a pas parlé peut-être d'une chose qui est cette fameuse résistance au changement ou cette transformation au niveau des équipes, parce que quand on va mettre en place un bot, en plus vous avez des équipes qui sont techniciens, ils sont technophiles, ils sont super bons en informatique, comment pour eux ça arrive, ce nouveau collaborateur, ce nouveau collègue? Est-ce qu'on se dit, bah voilà, il y a le bot, c'est bon, ça marche? Est-ce qu'il y a comme un travail à faire?
Alors oui, forcément, en fait, on ne peut pas arriver en leur disant, bah voilà, on met en place un callbot sans les prévenir. En fait, on va bien leur montrer qu'on va les assister avec les solutions qu'on a citées précédemment. Donc, c'est le copilote, hein, l'agent assiste, et aussi la partie rédactionnelle, qui sont vraiment des tâches très rébarbatives et les moins appréciées des techniciens. Donc en leur disant, ben, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous aimez faire, à aider votre client, en fait on a une adhésion de leur part et ça passe tout seul.
Ouais, donc pour vraiment montrer cet aspect-là et montrer que ça ne va pas les remplacer, que ça va au contraire les aider. Alors, on arrive à la fin de cette petite session là. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous, Yacine ? C'est quoi les mots-clés forts quand on se dit plus d'IA pour plus d'humains, comment améliorer l'efficacité du centre de contact ? C'était un petit peu la thématique. C'est quoi ? C'est passer à l'action, lancez-vous, n'ayez pas peur de tester les bots. Maintenant, on arrive comme à un niveau de service qui est suffisant parce que chez vos clients, tous vos clients ne sont pas encore passés aux bots.
Oui, absolument. Ça reste quand même assez récent comme technologie. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut y aller par étapes, puisque tout changer d'un coup, c'est prendre des risques, mais y aller progressivement.
Et ouais, sur une nature de demande, sur l'alignement du traitement, sur certains éléments.
Oui, d'abord la qualification, puis ensuite l'assistance aux techniciens pour le fameux agent d'assist, le résumé, puis ensuite la création du ticket automatisé. Vraiment, y aller par étapes, ça, c'est vraiment le meilleur moyen de réussir. Et ensuite, ce qu'il faut bien garder en tête pour avoir l'adhésion des équipes, c'est qu'on est on rentre dans l'ère de la collaboration augmentée. Voilà. Donc, c'est de l'outillage pour nos équipes, pour les aider à mieux servir les utilisateurs finaux.
Et pour toi, Daniel, donc, ce qu'il faut retenir, c'est la même chose, c'est y aller, se lancer. N'ayez pas peur.
Oui, alors, l'IA, c'est maintenant, ça rentre dans les usages de tout le monde. Donc, les gens ne sont plus récalcitrants. Certains sont demandeurs. Hein. On a dans nos équipes beaucoup de génération Z. Ils utilisent au quotidien ce type de technologie. Et à la rigueur, je dirais qu'arriver dans une entreprise qui n'est pas à l'avant-garde pour eux, alors qu'on se prétend faire du numérique, ça amènerait plutôt à des questions. Ils sont plutôt friands et nous aident justement à trouver les nouveaux usages et travailler avec ces nouveaux outils.
Ouais. Et pour toi, Laurent, toi qui vois beaucoup de dossiers, quels conseils tu donnerais aux clients qui veulent en fait travailler sur cette intégration de l'intelligence artificielle dans le centre de contact ? C'est quoi ce qu'il faut retenir de cet atelier et quelle serait la prochaine étape, à part appeler Eloquent pour demander une démo, que tu feras avec grand plaisir ?
C'est possible aussi. Je dirais qu'il y a une multitude de quick wins à trouver et peut-être que la façon de les détecter, c'est tout simplement de puiser dans les irritants soit client, soit agent, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pas forcément réglées, mais améliorées par de l'IA. Et on en a cité plein au cours de cette conversation.
Ouais, donc, il faut trouver le bon choix et le bon cas d'usage. Alors, merci pour cette session. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la session de questions-réponses et qu'on fasse gagner les deux livres. Donc, Chantal, c'est quoi la petite question magique auquel il va falloir répondre ? Et ensuite, commencez à préparer vos questions pour Yacine, Daniel et Laurent.
Alors, la question pour cette session est pour vous faire gagner les deux livres que vous voyez sur la table devant Frédéric. Pour cette session, ça va être « La fonction de traduction temps réel entre l'agent et l'appelant permet de traduire dans quelle langue ?» Un petit piège. Donc, on vous laisse répondre.
Alors, Laurent, Yacine et Daniel.
Le lexique est assez ouvert. Pour rien vous cacher, j'ai même vu dans la liste du français canadien. Donc, je pense qu'on peut... alors, tout dépend des langues qui sont demandées, mais la liste est quand même assez complète.
Donc, on arrive quasiment aux mêmes langues, en fait, que dans les chatbots, en fait. Et c'est-à-dire quasiment toutes les langues universelles les plus parlées dans le monde, quoi.
Oui, après, alors, le modulo...
L'accent.
L'accent, effectivement. En fait, il faut qu'il y ait une synthèse vocale derrière. Donc, il faut qu'elle existe dans la langue en question, puisqu'il y a des intonations qui appartiennent à chaque langue.
Ouais. OK. Alors, Chantal, une autre question de la part de nos auditeurs.
Quelques questions. Donc, on me demande, il faut combien de temps pour mettre en place un callbot ?
Alors, un callbot, alors tout dépend du callbot. Il peut y avoir il y a des questions d'intégration. Et notamment, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué un point qui est important, c'est l'intégration du callbot avec le centre de contact. Puisque ça aussi, ça a de la valeur. Plutôt que le callbot fasse son travail dans son coin et passe l'appel à un agent, et puis l'agent décroche et dit « Est-ce que vous pouvez répéter tout ce que vous avez dit au callbot ?» L'intérêt, c'est de pouvoir donner les informations au centre de contact et à l'agent pour qu'il puisse reprendre. Donc le callbot, je dirais que c'est davantage un travail d'intégration. Toute la partie prompting, toute la partie synthèse vocale avec tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre. Du moment qu'on sache ce qu'on veut faire, la mise en œuvre n'est pas très chronophage.
On n'est plus sur des périodes de 2-3 mois, non. On est plus sur des périodes où on va d'abord faire le prompt, on va écrire et on va tester en fait le bot, ce qui est beaucoup moins chronophage que lorsqu'on devait récupérer toutes les intentions, récupérer tous ces mots-clés, les différentes manières de dire les choses, où là c'était plus long. On est plutôt sur, on met en place l'IA générative avec le socle, on le teste et on vérifie que ça marche, tandis qu'avant c'était, on met la base avec l'IA classique, et ensuite, on met en place la partie apprentissage est beaucoup moins importante.
Le temps, il est là. Après, ça restera potentiellement un sujet d'intégration avec un système d'information qu'il faudra traiter comme on le faisait avant.
Ouais, et c'est vrai que quand on a un callbot intégré avec Eloquence, c'est quand même plus intéressant parce qu'il n'y a pas cet aspect double consommation, cet aspect tromboning, etc. qu'on a...
C'est ça, c'est que le callbot est derrière le centre de contact. En tout cas, en amont, il est présenté en amont, mais il est géré par le centre de contact, ce qui permet de jouer avec le bot, que ce soit pour l'arrivée des appels, mais ça peut être également, dans des cas, ça peut se prêter, que l'agent renvoie vers le callbot pour donner des informations particulières. Pourquoi pas ? Donc ça peut aller dans les deux sens et c'est autant d'économies sur les flux.
Alors, je crois que pour la question pour le livre, on n'aurait pas donné la réponse, Chantal ? On n'aurait pas dit...
Bravo.
La question, c'était quoi pour gagner le livre ?
C'était en combien de langues, dans quelle langue ?
Ouais, mais je crois que...
Il y a des réponses,
Répondu, donc c'était toutes les langues. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre question que...
Oui, on en a plusieurs. Il y a Morgane qui demande « Pouvez-vous confirmer que vos callbots auraient la capacité, via des API on-premise du client, d'interagir dans le SI du client ?» Merci par avance.
Alors, même réponse que tout à l'heure. Alors, bien sûr, là, on parle de sujets de systèmes d'information qui sont ouverts. Du moment que le système d'information est ouvert et qu'on sache à quel moment il faut que le callbot interroge ou dépose des informations, en fait, c'est de l'entrant et du sortant sur la partie dépôt. Donc, le callbot peut aussi bien aller chercher l'information sur un système d'information ou en déposer.
OK.
Je continue. J'ai Karimou qui demande « Comment résoudre une IA standard qui ne comprend pas votre réel besoin et aucun moyen de passer à un agent humain ? Pensez-vous que c'est une excellente idée ?»
Alors peut-être pour Daniel et puis Yacine, si j'ai bien compris la question, c'est comment on fait quand le callbot ne comprend pas ? Parce que là, ça semble être le problème. Et comment qu'il ne comprend pas et qu'on ne peut pas passer à un agent ? Comment ça se passe et comment on peut résoudre
ce souci ? Aujourd'hui, avec de l'IA générative, déjà, ça se passe vraiment dans le prompting, où on va lui indiquer, généralement, tu dois répondre entre 3 ou 4, 5 questions, et quoi qu'il arrive, tu passes à un être humain. Donc, le callbot, il est déjà mis en place pour, in fine, passer l'appel à un être humain, sauf s'il a résolu le problème. Donc, ce qu'on fait, c'est on s'assure qu'une fois qu'il a répondu, il pose la question à l'utilisateur, est-ce qu'on a bien répondu à sa problématique, et sinon il passe la main. Mais c'est vraiment le but, en fait. Donc si on a mis en place un callbot qui n'arrive pas à passer un être humain, on est peut-être sur une autre technologie, mais c'est pas ce que nous on préconise. Hein. Ouais. On met toujours au bout l'humain qui doit répondre.
Alors peut-être aussi qu'une question, c'est quand il n'y a pas d'humains derrière, qui sont par exemple en 24-7, il n'y a pas de 24-7 justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on peut peut-être enregistrer l'appel ou des choses comme ça ?
On pourrait effectivement, en fait, à partir de la fonction résumé, créer un email, un ticket, et là on aurait d'autres équipes qui viendraient se baser sur cette information pour répondre plus tard. Ouais. Mais à un moment donné, il faudra voir sur quel canal les équipes peuvent répondre et leur transférer. Donc on pourrait effectivement, si on est sur du HNO, imaginer que notre callbot en HNO prenne l'information, comme il n'y a personne de disponible, fasse un résumé, informe l'utilisateur qu'il crée un ticket pour lui et qui sera traité dès le lendemain matin par quelqu'un.
Ouais, voilà, le classique. Retrouver en fait le mode asynchrone quand les gens ne sont pas disponibles. Avec cette la richesse d'avoir l'enregistrement de l'appel, le résumé et toutes les informations. Et le ticket déjà créé. Alors Chantal, une autre question.
J'ai plusieurs questions. Toujours Morgane qui demandait, vos solutions d'IA auront-elles la capacité de parler avec des LLM clients on-premise ?
C'est technique, c'est-à-dire le callbot peut-il être connecté à un LLM métier ?
Oui.
Pas métier ou spécifique.
Après, c'est des technos qui sont, alors entre STT, TTS, LLM, il y a de toute façon une symphonie qui doit s'exercer. C'est pas des objets qui sont véritablement fusionnels les uns par rapport aux autres. Donc on peut imaginer tout type d'architecture. Le seul prérequis, c'est qu'il faut que tous ces systèmes soient ouverts.
Ouais, des API qui permettent d'aller interroger le LLM on-premise et qui ait les droits d'ouverture, qui est parfois compliqué dans le domaine bancaire ou dans le domaine assurantiel, voilà, où il y a vraiment de la sécurité, où il faut faire du VPN et des choses comme ça. Okay.
J'ai une question de Jules. Comment être sûr de la qualité de l'IA par écrit ? Voilà maintenant presque 2 mois qu'on peaufine nos prompts afin de mettre l'IA en place.
Bonne question.
Ouais, il y a un sujet. Si la question, c'est de s'assurer qu'il répond de la bonne manière, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le RAG, où on va vraiment cadrer l'IA sur ce qu'elle a le droit de répondre, tout simplement.
Mais c'est vrai qu'aussi, plus on a un prompt qui est long, plus en fait on a de chances que ça se prenne les pieds dans le tapis. Et c'est vrai que parfois, quand on fait des prompts qui sont trop longs, il a tendance à oublier. Moi, c'est vrai que on avait fait des tests ensemble avec Laurent, et des fois, on avait fait des prompts qui étaient trop longs, et à un moment donné, à donner trop d'infos, l'IA ne peut pas suivre. En fait, c'est comme donner trop de consignes à une personne, elle ne va pas la suivre. Donc, il faut quand même être raisonnable, je pense, sur la longueur du prompt et ce que l'on veut obtenir. Et autrement, on peut travailler aussi avec plusieurs callbots. Être totalement indépendant et des bots qui se parlent les uns aux autres. Alors, c'était une très bonne question, très technique. Chantal ?
Petite dernière, on a le temps ?
Oui, on a le temps.
Donc j'ai Diane qui demande, vous n'avez pas peur de la résistance au changement des conseillers avec l'arrivée du bot ?
Ah ben voilà, ouais, on en a parlé, hein, comme on l'a vu, ils sont plutôt friands hein, au final. Ben, quand on leur met en avant le fait qu'ils vont passer moins de temps à rédiger, qu'ils ne vont plus avoir à prendre de notes, c'est les premiers à nous demander quand est-ce que votre callbot arrive, parce que
ça va me faire gagner du temps.
Ça va me faire gagner du temps et puis ça va m'éviter une tâche fastidieuse.
Ok. Bah, on pourra voir le tirage au sort, Chantal, qui est le ou la gagnante des deux livres.
Eh bien, c'est Françoise Brunel qui a répondu le plus rapidement. En disant multilingue, donc c'était une bonne réponse aussi.
Voilà. Merci.
Bravo Françoise, et puis on va vous demander sous peu vos coordonnées. Vous recevrez un petit mail de notre part.
Alors, on va terminer la matinée par le dernier atelier qui sera sur la thématique « Ne laissez plus vos KPI vous mener en bateau, reprenez le cap ». Et pour cela, on aura le plaisir de recevoir Sébastien Julien, qui est notre responsable du support chez Locan, et Dadi Bobozo de l'ADI. À tout de suite.